Bon, décortiquons tout ça. Imaginons un peu la construction d'une maison en apparence parfaite, et puis, 10 ans plus tard, de grandes lézards traversent les murs.
Ouais, des fissures qui viennent vraiment de la base, en fait.
Exactement. Le problème ne vient pas de la météo, mais bien de micro-fissures dans les fondations qui ont été coulées des décennies plus tôt. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les traumatismes d'enfance non traités.
C'est une super analogie, parce que ces failles invisibles, elles menacent carrément de faire effondrer toute la structure une fois arrivée à l'âge adulte.
Voilà. Donc aujourd'hui, notre analyse en profondeur se penche sur les directives qu'on appelle Tip for Kids, c'est-à-dire les pratiques qui tiennent compte des traumatismes. L'objectif de notre exploration, c'est de comprendre l'ampleur insoupçonnée de ce qu'on nomme les expériences pénalisantes de l'enfance.
Et aussi de voir comment la gestion de ces traumatismes est en train de passer d'une approche purement médicale à eh bien une véritable obligation légale.
Bah oui, parce que les chiffres qui documentent ces failles, ils sont dingues!
Totalement vertigineux, oui. Si on regarde une vaste étude américaine menée de 2011 à 2020 sur ces fameuses EPE, donc les expériences pénalisantes de l'enfance, eh bien on découvre que près des deux tiers des adultes ont subi au moins un de ces événements.
Attends, 2/3 de la population, c'est massif.
Ouais, et c'est pire. Un adulte sur six en a accumulé quatre ou plus. Donc c'est pas du tout une anomalie marginale, c'est vraiment devenu une norme statistique.
Ah ouais, 1 sur 6. Mais concrètement, au-delà de la tragédie individuelle, ça représente quoi à grande échelle?
Eh bien, l'impact se mesure en milliards. Ces traumatismes non résolus, ils génèrent des coûts médicaux chroniques, des pertes de productivité et une pression énorme sur les services sociaux.
D'accord, donc ça pèse sur toute l'économie.
C'est clair. Les économistes estiment d'ailleurs que ces conséquences amputeront les économies nationales de près de 6% de leur PIB annuel.
Waouh, 6% du PIB, c'est colossal. Mais pour en arriver là, on parle de quoi exactement quand on dit traumatisme? Parce que, enfin, on a tous en tête les pires violences physiques ou la négligence grave, mais ça peut pas concerner 2/3 d'une société.
Mais ce qui est fascinant ici, c'est que la définition clinique a radicalement évolué. Elle colle beaucoup plus à la réalité biologique d'aujourd'hui.
C'est-à-dire.
Bien sûr, les abus physiques en font partie, hein, mais le spectre intègre maintenant des choses comme les traumatismes médicaux liés à des maladies infantiles lourdes ou même les trajectoires de migration complexes. Et puis, il y a ce qu'on nomme le stress toxique.
Le stress toxique. Mais c'est quoi la différence avec, je sais pas, le fait d'avoir peur du noir ou de stresser avant un examen?
Alors, le stress normal, c'est temporaire, c'est même formateur. Le stress toxique, lui, il survient quand le système d'alerte de l'enfant est activé en permanence. Et ça, sans la protection d'un adulte rassurant pour faire redescendre la pression.
Ah, d'accord. C'est le côté continu qui pose problème.
Voilà. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, la perte brutale de repères et l'isolement extrême, ça agit sur certains jeunes exactement comme un stress toxique prolongé.
C'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce que si ce fameux système d'alerte tourne à vide tout le temps, il doit forcément causer des dégâts structurels, non? C'est un peu comme si le cerveau de l'enfant était un détecteur de fumée mal calibré. Il hurle et bloque toute la maison, même quand on fait juste griller du pain.
Ouais, c'est une excellente image et la biologie la confirme totalement. Face à un stress toxique, l'enfant se met en mode survie. Son cerveau est littéralement inondé de cortisol.
L'hormone du stress.
Exactement. Et ce cortisol va bloquer le développement neuronal. D'ailleurs, les effets varient selon l'âge. Entre 3 et 5 ans, une phase clé pour la communication, ce flot altère complètement l'acquisition du langage.
Ah oui, quand même.
Et entre 6 et 12 ans, ça freine le développement du cortex préfrontal, donc la zone de la logique. La capacité d'apprentissage est vraiment perturbée.
Et pour les ados, alors?
Chez les adolescents, disons de 10 à 19 ans, voire jusqu'à 24 ans, ce choc neurologique vient percuter de plein fouet les immenses bouleversements physiques et hormonaux qui sont déjà en cours.
C'est terrifiant d'imaginer que l'architecture même du cerveau en pâtit physiquement.
Surtout que ce fardeau frappe de manière très inégale. Il y a une boîte à outils du gouvernement écossais qui montre bien que les milieux socio-économiques défavorisés sont touchés de façon disproportionnée.
Genre avec des facteurs aggravants?
Ouais, dans leur échantillon, 30% des personnes concernées vivaient dans un foyer confronté à la toxicomanie, par exemple.
Donc, si la science prouve que l'environnement détruit physiquement le cerveau d'une partie de la génération, pourquoi est-ce que les institutions se contentent souvent de réagir aux symptômes 20 ans plus tard? Est-ce qu'il y a enfin une volonté de stopper les dégâts à la source?
Eh bien, si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est justement ce qui motive le virage juridique actuel. Des textes comme la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ça transforme cette prévention en véritable obligation pour les États.
Ah, donc ça devient contraignant juridiquement.
Tout à fait. En Écosse et en Australie, par exemple, les secteurs de la santé et de l'éducation sont maintenant contraints d'intégrer des pratiques adaptées au traumatisme.
C'est une sacrée évolution.
Oui, et ça soulève une question hyper importante. Comment nos systèmes doivent-ils se réorganiser pour prévenir proactivement ces dommages, notamment face à l'exploitation et au harcèlement en ligne?
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Globalement, adopter ce prisme, ça modifie complètement notre compréhension des relations humaines. Au lieu de juger quelqu'un en se demandant quel est son problème, cette approche nous pousse plutôt à demander, eh bien, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Exactement. On commence enfin à décoder des mécanismes invisibles. C'est une démarche qui oblige finalement la société à examiner ses propres fondations.
Tout à fait. Et nos sources soulignent d'ailleurs que ce devoir légal de prévention s'étend désormais aux espaces numériques. Ce qui nous laisse avec une réflexion super intrigante pour terminer.
Ah, je t'écoute.
Eh bien, si la protection contre les traumatismes d'enfance devient une obligation juridique stricte, pourrait-on bientôt voir de grandes entreprises technologiques poursuivies en justice?
Oh, ça, c'est une excellente question.
N'est-ce pas? Si elles refusent de concevoir des algorithmes expressément informés des traumatismes, on peut se demander si elles ne pourraient pas, un jour, être tenues responsables d'avoir sciemment fissuré les fondations de demain.